Salam alaikum wa alaikum salut. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur la Tay pour un nouvel épisode. Enfin, après une absence trop longue, où on a clairement disparu des internets pendant 2 mois, quelque chose comme ça. Parce que voilà, à cause de problèmes d'emploi du temps, on n'a pas pu sortir d'épisode de janvier. Mais c'est pas grave parce que pour nous pardonner, on a décidé de sortir encore plus de contenu pour la suite. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Sidox, comment tu vas?
Ah, ça va au top, au top. Là, je l'ai dit hein, juste avant qu'on lance, je suis très content de l'émission qu'on va faire aujourd'hui.
Et j'ai aussi à mes côtés notre invité du jour, notre sab du jour du coup, Paloma, comment ça va?
Ouais, ça va très bien, je suis contente d'être avec vous.
On se retrouve aujourd'hui entre Algériens autour du micro, tiens.
Mortel, ouh, mortel.
C'est même pas fait exprès.
Kauter, Ziyed, Amel.
On pense à vous.
On vous aime pas.
Il y a pas de hasard.
Du coup, Paloma, tu es DJ, documentariste. T'es franco-algérienne, franco-kabyle, c'est important de le préciser parce que je pense que c'est cette précision qui permet aussi de comprendre ton travail et la musique que tu fais.
Ouais, après je rentre pas non plus dans le ghetto, hein. Moi je franco-algérienne, ça me va, hein, franchement.
T'es résidente au Mélotron où t'as une émission qui s'appelle Radio Amazir.
Ouais.
En fait, ouais, les épisodes de Radio Amazir, pendant une heure, t'écris une histoire musicale à travers une personnalité. Et moi je prends vraiment ça comme un cours d'histoire un peu, tu vois, comme... Ouais, c'est ça, parce que à travers, enfin, c'est pas qu'un mix, c'est, tu vois, on entend ta voix, enfin, t'apportes des précisions à la chose. T'as mixé dans plein d'endroits, NTS Radio, en France, t'as mixé à la Maroquinerie, au Trabendo. T'écris aussi des articles sur les vinyles que tu aimes, sur les vinyles qui t'ont marqué. Mais la plus grosse actualité, c'est le documentaire que tu viens de sortir.
Ouais, ouais.
Qui s'appelle Planète Malek, produit avec Habibi Funk, où tu recolles, en fait, des morceaux de la vie de Ahmed Malek, un compositeur algérien mythique.
Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font, ils rendent hommage à Ahmed Malek dans son histoire.
Ahmed Malek, c'est un musicien.
Il a composé la plupart des films algériens.
Malek est composé de tout. Il avait de tout. C'était une richesse.
Il a voyagé. Et c'est le gars
qui
s'est
pas arrêté de voyager. Hein.
Il allait partout.
Ah, mon père, c'était la valise et je démarre.
Du coup, bah moi, juste après avoir vu le documentaire que j'ai montré aussi à mes parents, ils m'ont dit, on savait pas du tout qui c'était Ahmed Malek, tu vois. Mais quand ils ont entendu les chansons, c'était évident. Moi, Omar Gatlatou, la première fois que je l'ai vu, c'était quand j'étais au collège, j'étais dans un ciné-club et ils avaient passé Omar Gatlatou. Et juste après, je suis rentrée chez moi et j'en ai parlé à mon père. Et il m'a dit, mais oui, bien sûr. Enfin, mais pourquoi tu me l'as jamais montré?
Ouais, c'est ça. Il y a un peu d'illusion d'évidence autour de ces œuvres artistiques. Moi, j'ai jamais vu aucun des films, par exemple. Et je vais rattraper ça très très vite. Mais voir qu'il y a tout un mythe et un niveau d'excellence autour des musiques de ces films m'a vraiment rendu très curieux par rapport à ces œuvres. Genre, ça m'a vraiment donné envie de les voir. Genre, je vais rattraper ça. Dès que possible.
Ouais, mais en même temps, ils sont pas si faciles à voir, tu vois. Il y en a sur YouTube, mais alors déjà, si tu parles pas arabe,
c'est compliqué
parce qu'ils sont pas sous-titrés en français ceux que t'as sur YouTube.
Ouais, c'est ça.
Tu vois. Et après, et en plus, c'est une qualité qui est vraiment pas ouf, quoi. Faut chauffer à mater un film en
144p.
Ouais, là, voilà, c'est chaud, quoi, tu vois. Donc aussi, il y a un taf qui est pas fait, quoi. Un taf de valorisation du patrimoine algérien qui est juste pas fait. J'en parlais avec un gars hier qui est un gars qui collectionne les vinyles depuis, je sais pas, 30 ans, genre. Et il me dit, ouais, il y a un vrai problème, c'est que les vinyles algériens, ils sont grave mal pressés. Et du coup, maintenant, on a des super mauvaises qualités d'enregistrement. Et après ça, on peut rien en faire.
Ouais,
tu vois ce que je veux dire?
Plus.
Ça se transmet plus. Du coup, il y a un vrai taf à faire sur le patrimoine algérien qui est super riche, moi, je trouve. Et avant d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur du pays, en fait.
Ouais.
Et c'est là tout de suite que ça devient politique, c'est qu'il y a une richesse qui est à aller chercher à l'intérieur, voilà, parce que tout le monde part et tout. Mais putain, en Algérie, il se passe des trucs, quoi. Et il s'est passé des trucs, et on peut en être fier, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Et voilà, et ça, 'fin, c'est super important. Et pour moi, les Algériens qui ont compris ça, mes potes dans la musique ou quoi, danseurs à Alger et tout, ils ont compris, bah ouais, on a un patrimoine, on en est fiers, tu vois. Ahmed Malek, on connaît, on valorise ce patrimoine, c'est nous, c'est notre identité, tu vois.
Ouais.
Parce que la mondialisation, ça va 2 minutes, quoi.
Ouais.
Enfin.
Je sais que, quand je t'entends parler comme ça, ça fait écho à la politique inconsciente de retour à l'identité des origines que je vois dans la culture urbaine. La grande baffe, franchement, on va saouler les auditeurs de la taille parce qu'on parle trop de l'artiste que je vais citer, mais Soul King. Soul King, qui passe son temps à rappeler que la musique qu'il fait, il l'importe d'Algérie, il l'a travaillé en Algérie, tout son côté artistique, ça vient de là-bas. Je l'ai vu faire une interview avec Click, avec son groupe Africa Jungle, où il dit « Ouais, mais l'arabe, c'est la plus belle langue pour le rap. » Il y a une prise de conscience où, donc comme tu te dis, il y a trop de choses à faire là-bas, il y a trop de trucs à récupérer, trop de trucs à inventer.
Mais est-ce que justement, nous, en fait, même parce que ce qu'on fait avec la taille aussi, tu vois, c'est un peu ça,
ouais,
sans s'en rendre compte un peu, est-ce que c'est pas aussi parce que, genre, on a été confrontés à tellement d'autres choses. Enfin, toi, tu disais par exemple, la mondialisation, ça va deux minutes, mais en fait, justement, à force, enfin, moi personnellement, à force d'avoir été confrontée en fait à toutes les différentes cultures et à force d'avoir vu que dans chaque culture, il y a quelque chose d'intéressant, je me suis dit, bah, en fait, dans la mienne aussi, il doit y avoir des choses intéressantes. Donc, enfin, c'est ce qu'on voit par exemple avec le rap marocain, tu vois, qui est en train un peu de se mondialiser. Est-ce que justement, c'est pas parce qu'il y a cette ouverture que maintenant on peut un peu se recentrer sur nous-mêmes,
tu vois? Mais bien sûr, on n'aurait pas pu le faire s'il n'y avait pas eu ce truc justement de mondialisation. À un moment, voilà, on voit, bah, c'est bien, les Ricains, ils ont leur rap, les trucs, et ben ok, nous, on a aussi notre truc.
Ouais, c'est ça.
Ça suffit de dire c'est mieux ailleurs. C'est plus ça.
Ouais.
C'est pas tant le côté. Enfin, c'est pas mal la mondialisation, c'est pas le chétan et tout. Mais juste se dire, voilà.
Quitte à mondialiser, ouais, autant choisir où on va regarder, en fait.
Ouais.
Genre, c'est. Ouais, ton exemple du rap US, il me parle beaucoup. On choisit de plus. Forcément écouter que ça, on choisit le rap qu'on veut écouter, on choisit la musique qu'on veut écouter,
ouais,
les films qu'on veut regarder, et du coup ça donne de la place et ça donne surtout des opportunités et des chances à des productions qu'on n'aurait jamais calculées 10 ans plus tôt, quoi.
Exactement.
Pour recontextualiser les choses, Ahmed Malek, c'est un compositeur de musique de film qui a travaillé sur Omar Gatlatou, Leïla et les autres, et Les vacances de l'inspecteur Tahar. Est-ce qu'on est vraiment algérien si on n'a jamais entendu nos parents parler de les vacances dans le spectre d'Arles? Je sais pas. Mais voilà, toutes ces musiques en fait qui ont bercé l'Algérie, et pourtant le nom n'est pas autant resté que ça.
Ouais, exactement. Mais en fait, c'est pas grave dans le fond. C'est ce que je me dis au fil des gens que je rencontre, quand j'en parle, au fil des interviews et tout. Je me dis, sa musique, elle est restée. Et c'est ça le plus important.
Ouais.
Après, là, s'il y a des personnes qui voient le film, qui peuvent enfin remettre le nom, bah tant mieux, tu vois. Mais dans le fond, sa musique, elle a nourri l'imaginaire collectif algérien, tu vois. Et ça, c'est super fort.
Ouais, parce que sa démarche artistique, c'était que sa musique reste et pas forcément lui. Donc, comme tu l'as dit, si le nom de tous les films perce grâce aux bandes originales, c'est mission accomplie pour lui. Quoi.
Mmh, exactement.
Quel a été ton premier souvenir avec l'Algérie?
Écoute, c'est le moment émotion. Premiers souvenirs.
Les points de l'attention, ouais. Je t'écoute.
Premier souvenir en vrai ou en. Parce que dans mon imaginaire, j'avais déjà un rapport à l'Algérie de toute la vie, tu vois. Mais après, moi, j'ai découvert l'Algérie, genre, j'avais 22 ans, tu vois, j'y suis allée pour la première fois. C'est ça que tu veux que je raconte?
C'est, on peut partir déjà de toi, en fait, ton premier souvenir avec l'Algérie, que ce soit à travers tes parents ou à travers ta culture, enfin, pas forcément avec le pays de manière physique, et ensuite...
franchement, je vais te dire un truc, les premiers trucs de ma vie, c'était du racisme.
Ouais.
En fait, c'est assez chaud, mais il y a, genre, moi, il y a une partie de ma famille qui est raciste, et l'autre qui est algérienne. Du coup, c'est découpé comme ça. Du coup, je me suis construite là-dedans, en fait. De la haine, du seum, des putains de préjugés racistes sans arrêt sur toute une partie de ma famille. En fait, ils ne se sont jamais rencontrés, en fait, dans ma famille. Mes parents, ils sont restés 17 ans ensemble et jamais ils ont trouvé le temps de se rencontrer, tu vois. Jamais ils ont voulu se rencontrer. Et moi, je suis un peu, le fruit de ce truc entre deux familles qui se détestent, quoi. Donc bon, déjà, ça, c'est chaud. Mais c'est... Voilà, je pense que c'est la base de mon taf, en fait. La base de qui je suis, voilà. Et donc, les souvenirs, c'est de la haine, ouais. Et puis après, j'ai commencé à m'intéresser au-delà des présupposés de ce qu'il y avait, des préjugés, et donc j'ai commencé à avoir des longues discussions avec mon grand-père, donc là-bas, qui est décédé maintenant.
Bah,
ouais, merci. Et du coup, voilà, on avait ces grandes discussions et là, et au début,
il habitait en France.
Ouais, il habitait à Belleville. Il a bougé dans les années 90. Et du coup, il me racontait comment c'était la vie pour lui, la Kabylie et tout, l'Algérie. Et j'ai commencé à enregistrer ces discussions. J'ai compris d'où je venais. Je me suis dit, ah ouais, non, mais il y a une partie de moi qui était pas là. Et genre, il faut qu'elle revienne, quoi. Enfin, ça me manque. Tu sais, je me sentais incomplète. Mmh. Et je suis allée pour la première fois en Algérie. Et là, toutes les pièces du puzzle se sont imbriquées.
J'ai et fait, comment c'était la première fois que tu y allais?
Écoute, ok, donc ma daronne, elle y était pas retournée. Elle a fugué ma mère à 20 ans. En mode femme rebelle, Jamila, comme toutes les Jamila, tu sais, elle avait besoin de sa rébellion. Du coup, 20 ans, elle fugue avec mon daron. Boum, il s'installe à Paris. Ma daronne, mannequin, pendant 10 ans, après elle bosse dans la mode et tout, machin, cool. Mais, toujours un truc en elle qui lui manque. Elle en parle très très bien, d'ailleurs, quand mon émission radio Amazir avec ma mère, elle en parle très bien. Elle dit que le rôle qu'a eu la musique à ce moment-là pour elle, tu vois. La musique, ça la recollait, à chaque fois que ça lui manquait trop, ça la recollait, bon. Et donc moi, je grandis, et ma mère, toutes les vacances, c'est « Viens, on va au Maroc, viens, on va en Tunisie. » Et à un moment, je dis « Maman, mais ça te dit pas, on va en Algérie. »
Il y a un truc balèze entre les deux.
Il y a un petit pays entre les deux, tu sais, le plus grand pays d'Afrique, viens, on va voir, quoi. Et du coup, elle me fait « Non, je suis pas prête, non, j'ai peur, non. » Bon, comme, tu sais, toutes ces histoires d'Algériens coupées en deux, quoi, voilà. Et puis un jour, elle me dit « Bah, je crois que je suis prête, ça te dit qu'on y aille. » Et je fais « Yes, yes !» Et du coup, elle me dit « On y va en bateau. » Comme ça, on va voir la côte approcher.
CF, premier épisode de l'été, les vacances au
Ouais, exactement. Et du coup, ma mère, c'est une poète. Elle me dit « Ouais, on va voir Alger la Blanche apparaître dans la brume avec les hirondelles et tout, non. » Et du coup, on a fait ça. Et j'ai filmé ma mère. J'ai jamais sorti le truc, mais putain, c'est beau, quoi. Ses yeux qui se posent sur Alger... tu vois, la première fois depuis 35 ans, quoi. Oh, c'était fort. Et là, j'ai compris trop de trucs. J'ai compris ma daronne, j'ai compris mon rapport à l'Algérie, ce truc qui me manquait, pourquoi je suis si méditerranéenne, pourquoi il y a des trucs à Paris, en France, que je pouvais juste pas, genre, des trucs...
C'est aberrant.
En fait, c'est aberrant parce que c'est exactement ce que t'expliquais, en gros, dans un des épisodes, il expliquait exactement ça, où en fait, tu racontais justement que t'es pas retourné en Algérie depuis longtemps, et que justement, qu'il y a cette part de toi pas. Que tu n'expliques pas.
Et c'est absurde de vivre aussi longtemps avec des questions aussi importantes et des questions aussi balèzes dans ta tête, dans ton cœur, des trucs, des réflexes que t'expliques pas, c'est atroce, mais et c'est mortel, la taille, ça fait trop du sale, là. Ça répond en partie à mes questions, c'est magnifique. Mais,
Pour en revenir à la musique, du coup, tu parles de ta mère qui dit que la musique, elle a eu un rôle super important pour elle. Toi, la musique... À quel moment c'est rentré? Est-ce que justement c'est par ta mère ou est-ce que justement il y a eu d'autres déclics? Enfin, comment t'en es arrivé, tu vois, aujourd'hui, travailler principalement via la musique, avec de la musique?
En fait, c'est marrant parce que moi, le côté musical, c'est plus mon daron qui me l'a vraiment, parce que lui, c'est un fou de musique, et mes parents sont séparés, du coup j'ai grandi avec mon père à partir de 6 ans, et donc lui, c'était musique tous les jours, tous les repas, tu vois, c'était tu bouffes de la musique. Et du coup, par contre, ce qui est ouf, c'est que ça a un peu fait le même rôle que ce que la musique a fait à ma mère quand l'Algérie lui manquait, c'est-à-dire moi, ça me nourrissait, tu vois, ça nourrissait mon cœur, tu vois, parce que nous, je suis désolée, mais il y a un truc... Je sais pas, il y a un truc quand t'as des racines algériennes, il y a un truc spécial avec ton cœur. Je suis désolée, mais c'est vrai. Genre, quand t'écoutes de la musique, tu chiales, quoi, c'est tout, et c'est pas grave. Genre, c'est beau, c'est la vie, enfin. Et pour moi, il y a ce truc, il y a le même truc dans la musique brésilienne, mais c'est de la saudade, tu vois. Genre, en même temps, tu pleures, et en même temps, t'es trop heureux d'être en vie. Et genre, c'est ça la vie, tu vois. Et donc, j'écoutais de la musique, et ça me faisait déjà ça. Donc en fait, j'avais un rapport totalement algérien à la musique que j'écoutais.
Excellent.
Sauf que c'était mon daron, il écoutait plutôt Sade, du jazz, Motown, Stax, Northern Soul, machin et tout. Donc j'écoutais tout ça, mais avec mon petit card.
Des bonnes rêves quand même.
Ouais, grave.
Non, mais Sade, ça, c'est un truc d'algérien. Mon père, c'est un album de Sade. Hein.
Et du coup, de toute façon, elle est africaine, donc voilà. Mais donc il y avait ce truc, je crois que j'ai répondu à la question.
Et après, à partir de quel moment, du coup, parce que donc voilà, on en parlait tout à l'heure de ton échange à San Francisco, où il paraît, du coup, tu vas nous expliquer un peu plus, où il paraît que t'as touché les platines, en fait, que t'as commencé à mixer.
Totalement par hasard, en fait. Donc j'avais vraiment ce truc de la musique qui m'habitait fort, quoi, tu vois, mon ventre, quoi. Ouais. Voilà, ça se discute pas, c'est là. Et du coup, je suis allée à San Francisco et j'étais déjà écouté tellement de sons. Et donc, j'y vais pour mon master en cinéma, du coup. Et là-bas, je rencontre personne dans le cinéma, que des gens, que des DJ. Mon coloc est DJ, et donc je sors avec lui et tout. Et je voyais des collections de Scud, parce que là-bas, ils collectionnent les Scud, ils ont des milliers de disques, tu vois. Et je faisais, wow, putain, ça doit être chaud à déménager et tout. Mais je regardais ça un peu de loin, quoi. Et un jour, c'est vrai que, vu que je traînais tout le temps avec eux, je sortais tout le temps avec eux, et j'adorais faire la fête avec eux. Bon, à Paris, la fête, c'était pas trop mon truc. Mais là-bas, la fête, c'était bon enfant, c'était mélangé, c'était...
Il n'y avait pas ce côté hype...
Oh là là, tellement pas.
Sophistiqué, machin.
Ah ouais, non, mais l'inverse de ça, tu vois. Ouais. Juste du coup, de la danse, kiffer, on est mélangé, comme je te disais. À la fois culturellement, et aussi, il y a un truc où là-bas, les gays, les hétéros, les lesbiennes sortent ensemble. Et moi, ça m'a grave parlé aussi.
Ce qui est totalement pas le cas en France. Ouais. On a vraiment, tu sais, cette division, en fait, entre tout ce qui va être... En fait, déjà, on a cette division en France, déjà, les soirées
sociale,
de banlieue,
raciale.
C'est pas les soirées de Paris. Les soirées des Renois et des Rebeux, c'est pas les soirées des Blancs. Ouais. Les soirées des gays, c'est pas les soirées des hétéros,
tu vois.
Et là-bas, c'est ça que j'ai vraiment aimé. C'est vraiment, il y avait un mélange social de ouf, parce que tu sais, là-bas, quand t'es étudiant, c'est pas facile, quoi. T'as déjà un prêt sur le dos et tout, tu vois. Donc, il y avait de tout. Après, je dis pas que c'était non plus les gars d'Oakland qui venaient aux soirées. Des petits gars à San Francisco, tu vois, mais n'empêche que c'était déjà mélangé au moins dans l'appartenance sexuelle, quoi. C'est déjà voilà. Et ça, j'ai trop kiffé. Et après, c'est vrai qu'à une soirée, il y a un de mes potes, du coup, là-bas, il avait un blog musical de boogie disco. À la base, c'est vraiment ça ma musique, c'est tout ce qui est boogie disco funk et tout, qui m'a proposé de mixer. Il allait au chiottes, il m'a fait ouais, vas-y, reprends les platines, s'il te plaît. J'ai fait ok, vas-y, on va y aller, on va le tenter.
Mais alors, du coup, excuse-moi, j'ai une question.
Je t'en prie.
Est-ce que tu avais un parcours musical avant ça, type n'importe quel instrument, du solfège ou quelque chose genre...
J'ai fait un peu de piano et un peu de basse. D'accord. Et à chaque fois, j'ai lâché les trucs assez vite. J'ai chanté aussi en chœur j'ai fait les chœurs d'un groupe de rock,
D'accord.
Mais j'ai lâché assez vite. Je crois que j'avais pas confiance dans ma capacité de faire de la musique.
Que, comme le système d'éducation en France, le système d'éducation musicale, il est pas...
Ouais.
J'ai fait toutes mes années de solfège jusqu'à maintenant.
C'est abrutissant,
j'ai pas fait solfège. Mais à chaque fois, les profs, ils me disaient, putain, c'est con que tu continues pas, quoi. Ouais. Donc bon, mais j'ai pas continué, mais là, j'ai repris sur le tard. Donc là, c'est cool.
D'accord.
Mais du coup, voilà, je suis rentrée de San Francisco et j'ai bossé en boîte de prod. Et parallèlement, j'ai commencé à mixer, et vu que j'ai vite commencé à en vivre, en fait, j'ai pas tout de suite tout lâché, j'ai commencé, et voilà, et ça fait 7 ans, donc j'ai commencé comme ça, doucement.
T'as bien commencé maintenant, à 7 ans après.
Ouais.
Mortel.
Ok, et tes 7, pour ceux qui ont déjà écouté ou qui vont écouter, tu mixes pas que de la funk, tu mixes pas que des sons qu'on pourrait dire occidentaux.
Ouais.
Il y a beaucoup d'influences du monde arabe, d'influences d'Asie, d'influences d'Amérique latine aussi dans ta musique. Comment tu fais pour découvrir tout ça, mais un peu qu'est-ce que tu te dis en fait quand tu composes un mix, tu vois, genre comment Je ne saurais pas comment expliquer ma question.
Mais je crois que j'ai compris.
Ok.
En fait, bah, ça vient un peu de tout ce qu'on vient de dire, en fait. C'est genre, on disait, question du regard, de là où tu as envie de regarder. Moi, j'ai envie que mon regard, il soit sur le monde entier et pas juste sur une toute petite parcelle du monde qui est l'Europe. Et que tous les regards sont tournés vers l'Europe, même les regards des Algériens sont tournés vers l'Europe et tout, enfin, la plupart bien sûr. Et moi j'ai envie, boum, de retourner le regard et que en fait on s'intéresse aux gens auxquels on s'intéresse pas d'habitude. Et c'est pareil ce que je fais avec Ahmed Malek. C'est genre comment être un pont, tu vois, entre différentes cultures, parce que j'ai la chance, la grande chance d'avoir ces deux cultures-là, être à la fois parisienne et à la fois algérienne. Et du coup, bah, voilà, faire le pont. Et donc, c'est ça, le premier truc que je me dis pendant un mix, en fait. C'est comment on peut faire une synthèse de tout ça, quoi. Après, je ne me le dis pas trop mentalement.
Ouais, c'est
quoi.
Inconscient.
Je le fais, voilà. Là, je mets des mots dessus, mais... ouais.
Okay. Et comment tu fais le... la transition, ou alors le lien entre donc, le DJ, le... Enfin, ta vie de DJ et ce côté réalisatrice de vidéos, documentaires. Enfin, est-ce que ça se fait naturel ou est-ce que t'as conscience que c'est pas le même domaine et que à un moment tu vas devoir choisir ou alors te forcer à faire les deux en même temps, quoi.
Bah écoute, en fait, je vois plus les choses comme on disait tout à l'heure, genre un truc inconscient où en fait il y a des choses que j'ai envie de défendre et après, que ce soit le film ou la musique, c'est des moyens. C'est ça, en fait. C'est
un format, en
ouais,
fait.
Ouais, c'est un format. Mais ma priorité, c'est...
Ça reste toujours la même.
Ça reste toujours la même, en fait. C'est toujours le même... ouais, les mêmes idées, quoi, qu'il y a derrière.
Il y avait un truc aussi que je voulais dire par rapport à la vidéo que j'ai regardée, Planète Malek, que je trouvais impressionnant, c'est... t'avais une capacité à faire oublier la caméra. Genre... des rares souvenirs que j'ai de l'Algérie quand j'y suis allé, c'était des peintures quasi symétriques avec ce que je voyais dans ta vidéo, des moments aux fenêtres, des appartements avec le regard au loin, sur des balcons, quand elle montre une robe ou une photo, c'est des trucs que j'ai vu de mes propres yeux. Et de le voir avec autant de précision à travers un téléphone, à travers une vidéo, alors que c'est censé un peu dénaturer l'instant, que t'aies réussi à garder toute l'authenticité, j'ai trouvé ça impressionnant. J'ai trouvé ça impressionnant et t'as réussi à rendre ça naturel et à rendre les interventions naturelles, c'était vraiment appréciable tout le long de la vidéo.
Juste pourquoi Ahmed Malek ?
Alors ça, c'est tout bête en fait, c'est juste que c'est Habibi Funk qui m'a proposé de faire ce film, en fait.
D'accord.
Il m'a dit, voilà, je sais que tu es documentariste, tu fais des films, t'es algérienne, est-ce que ça te dit de le faire ?
Ok. Et comment vous vous êtes rencontrés ? Enfin, comment s'est fait la connexion avec Habibi ?
Bah, en fait, on a mixé ensemble pas mal de fois maintenant. Mmh. Et on s'entend trop bien, on est trop potes. Du coup, c'est tout con, enfin, c'est juste une histoire de potes, quoi. Et puis on défend les mêmes choses et il y a un truc dans son travail qui est hyper éthique et j'aime bien le rappeler. Moi j'aurais pas taffé avec quelqu'un parce que là il y a un journaliste de Libération qui m'a posé une question qui m'a dit tu trouves pas qu'il y a une ironie dans le fait que ce soit un DJ allemand qui redécouvre un monument de la musique algérienne.
Ouais, c'était une question que je voulais
te
poser aussi, ouais.
Et au final why not, parce que bon c'est de la mondialisation, ça se fait, les échanges se font dans tous les sens et vu que ses bases à lui elles sont hyper saines, hyper éthique et enfin voilà, dans toutes ces rééditions t'as les familles qui sont vraiment au cœur des projets, genre elles donnent leur avis sur tout, c'est elles qui touchent la thune principalement, c'est genre l'inverse d'un mec qui va s'approprier
la culture des
autres
et
qui va pomper le truc et qui va pomper la thune aussi qui va avec. Donc du coup je sais pas, vu que nos bases idéologiques elles sont hyper linkées, c'est juste dans la logique des choses qu'on bosse ensemble, quoi.
Est-ce que c'est ton premier documentaire ?
Non, j'ai fait un long métrage avant, mais qui n'est pas sorti encore.
D'accord.
Ouais.
Tu nous le dis. Tu nous le dis. Tu veux quelque chose.
Non, mais ouais. Vous voulez que je me dise sur quoi c'est ?
Ouais, on va pas te
forcer.
C'est à toi
de décider.
C'est ta promo, c'est ton truc.
Ouais, enfin, grave. Bah, en fait, on a suivi avec mon co-réalisateur. On a suivi pendant un an des kids qui sont en troisième dans un collège de ZEP. qui ont une prof d'art plastique qui leur fait faire des exercices pas possibles avec leur corps et tout. Et donc, c'est vraiment montré comment dans ce collège de ZEP, où bah, justement, de milieux super défavorisés, beaucoup de jeunes qui sont au foyer, tout ça, beaucoup de gens qui ont redoublé pas mal de fois et tout, déjà montré ce qu'ils sont à l'intérieur. Enfin, voilà, qu'ils sont plus que ça, déjà, de 1. Donc, il y a beaucoup d'interviews, gros plans, deep et tout, machin, sur qui ils sont. Et ce que ça leur apporte en termes de confiance en eux, tout ça, cette classe d'art plastique pas comme les autres. Et en fait, ouais, ils ont juste besoin de ça, en fait. Qu'on leur dise, ouais, t'es OK, en fait, tu peux exister. Genre, c'est comme pas grave, comme tu veux. Et c'est pas grave que tu sois pas dans un collège, à Henri IV ou quoi, en fait. T'as quand même ta place dans cette ville et dans ce monde. Et voilà, et cette prof, c'est vraiment ça qu'elle transmet. Donc, c'est un film sur l'enseignement de cette prof et ce que ça leur apporte.
C'est mortel.
On a fini le film il y a un an et en fait, on a des petits soucis d'autorisation avec le rectorat. On a hâte que ce film soit vu, mais pour le moment, voilà, on a des trucs à régler.
Et donc, du coup, pour revenir sur Planète Malek, comment t'as fait ? T'as contacté la famille, tu...
Écoute, déjà, je me posais la question de... Enfin, c'est un peu plus l'arrière du décor. Ouais, c'est comment t'as décidé en fait d'aller voir ces personnes. Comment t'as décidé d'aller voir ces personnes-là. Comment t'as décidé de faire le truc de cette manière-là et comment ça s'est organisé surtout.
En fait, bah, Yanis et Habibi Funk, il était déjà en lien avec Henia, du coup la fille de Ahmed Malek, par rapport à toutes les releases d'albums et tout. Donc j'avais le numéro de Henia et on commençait à se parler sur WhatsApp et tout, nanana. Sauf qu'on s'entend trop bien, on s'entendait trop bien, donc on se téléphonait et tout. Et c'est ce que je disais, ce que je répète vachement, c'est que pour moi, faire un film, c'est vraiment pas poser une caméra et... bah maintenant tu vas parler quoi, enfin, en fait c'est un truc humain et du coup c'est d'abord humain en fait, c'est d'abord si ça passait pas avec Henia, je sais même pas si le film il aurait eu lieu, tu vois.
Mais là la caméra elle était anecdotique, voilà, en fait elle parlait à toi, elle parlait pas à la vidéo, elle parlait à toi, elle te racontait tout à toi.
Exact, bah ouais c'est ça en fait, c'est la base du truc en fait. Et donc bah du coup voilà, donc et après on s'est dit quand est-ce que ça te va pour les dates. Et là, je vais te dire un truc, je flippais grave en fait, j'avais la pression pour ce projet. Et du coup, je faisais tout pour pas me stresser, à me dire bon, bah je vais faire un film sur Ahmed Malek, parce que voilà, tu vois, pour moi c'était important. Et du coup, je me suis chauffée, genre la veille, à prendre mes billets vraiment d'avion, à trop à l'arrache et tout. Mais bon, elle était dispo, machin. Et du coup, je suis arrivée. En fait, je me suis limite installée chez elle. Et là, on a commencé un gros travail, en fait, mais de mémoire pour elle. Et puis de transmission pour moi. En fait, je suis comme une éponge. Et genre, je prends toutes les infos, tout ce qu'elle va me dire, même pas me dire, même ce que je vais voir. Parce que c'est le même appart, en fait.
Ouais.
C'est l'appart dans lequel son père a travaillé, tu vois.
Ouais, c'est ça. Il y avait une photo, d'ailleurs, dans le documentaire où on voyait, en fait, la photo avant et l'endroit maintenant.
Ouais.
Et ouais, pour en revenir à Henia, justement. Enfin moi en fait ce que j'ai ressenti c'est que quand je regardais le documentaire des fois j'avais aussi l'impression qu'il était fait pour elle, tu vois, que ça lui a fait du bien, enfin
ouais.
J'avais cette impression où c'était un peu, tu sais, par exemple quand il y a la voisine qui dit Henia elle est une star, tu vois.
Skip elle est connue.
et quand j'ai vu ça en fait, genre tu vois, je pense que même pour elle en fait ça a dû être vraiment très très fort, enfin ça a dû être une expérience incroyable à vivre et ça a dû être même enfin rendre hommage à son père comme ça, tu vois.
Ouais,
ça,
il n'y a pas l'hommage qu'il mérite.
Voilà, c'est ça.
Bah, de ouf. Bah, moi, le moment le plus fort pour moi de tout ce processus, c'est quand j'ai montré le film à Henia. Je peux te dire que j'étais pas tranquille. Il fallait que ce film il lui plaise. Sinon, je sais pas ce que j'aurais fait. Enfin,
sinon, tu te demandes pourquoi t'aurais fait
sinon,
tout ça.
Sinon, je me demande pourquoi j'aurais fait. Et là, elle m'a pris dans ses bras et elle m'a dit t'as un papa, il doit être en train de danser. S'il avait été là, il t'aurait pris sur ses épaules. Tu vois. Et genre, j'ai fait OK.
Ah non, les frissons, incroyables.
Et son autre fille, Maya, elle habite maintenant au Canada. Et elle m'a envoyé un mail en me remerciant, genre. Mais tu sais, je le prends pas perso, c'est pas genre.
Ouais, il te remercie pas toi, il remercie ton travail.
Ouais, voilà, enfin, c'est. Et puis c'est grâce à elle que ce projet il existe. Si Henia elle m'avait rien donné, j'aurais jamais pu faire ce film, tu vois. Il y a un moment, j'ai vachement envie, enfin j'insiste vachement sur le fait que c'est un travail collectif faire un film.
Dans le documentaire, moi j'ai remarqué principalement deux angles. Donc le premier celui des voyages qui revient tout le temps.
Ouais.
Tout le temps, voilà, qu'il est allé au Japon, qu'il est allé dans les pays de l'Est et tout. Et surtout, le côté que j'ai découvert, sur la musique électronique en fait. Sur voilà, quand tu as raconté qu'il a ramené, un Atari en rentrant d'un voyage au Japon et que les gens lui ont dit mais tu fais quoi, enfin t'es en train de taper sur ton ordi. Et ça c'est un truc, enfin ça c'était vraiment ça a vraiment été une découverte, tu vois. Ouais, pour le coup, de te rendre compte que en fait parmi les pionniers de l'Atari, il y avait pas que les Américains. Ouais. Quoi.
Enfin, yes, c'est ça qu'on veut
c'est
entendre.
C'est surtout ça que, enfin.
Ouais.
Et du coup, ouais, non, ça, genre, toi, enfin, en plus, tu fais quand même un peu d'électro et tout. Enfin, il y a quand même beaucoup d'influence à l'électro dans ce que tu fais. Est-ce que c'est quelque chose que t'as découvert? Est-ce que, enfin, moi, c'était surtout, est-ce que c'était une des raisons pour lesquelles tu voulais travailler sur lui ou pas du tout?
Bah écoute, clairement, c'est un truc que j'ai découvert là-bas.
Ok.
J'ai halluciné en fait. J'ai fait et en fait c'est pour ça que le film je l'avais écrit avant, mais en fait il s'est réécrit sur place, parce que quand le fils Geshoud il m'a dit ouais en fait il travaillait grave avec des machines et tout, hein, bon j'avais déjà entendu hein, sa musique électro-acoustique et tout, mais là j'ai fait ouais en fait, et tous les deux ans il allait à un festival de Cuba de musique électro-acoustique et
ouais,
ça là, mais c'est un,
ouais, il disait qu'il
mais
manquait
ça,
pas
un délire, ça c'est même pas de la musique électronique, c'est genre c'est un truc conceptuel, mais genre tu te dis mais putain, mais genre moi je savais pas qu'il y avait ça en Algérie.
Ouais.
Tu vois,
ouais, c'est ça, c'est surtout ça, c'est en fait c'est, je pense que c'est la remarque qui revient le plus dans ton film, c'est je savais pas qu'il y avait ça en
mais
Algérie.
Ouais, tu vois, et donc en fait moi-même la première j'ai été surprise, et du coup bah il s'agissait de le mettre en valeur après. C'était
en fait, on se rend pas compte que l'Algérie elle est super ouverte sur le monde, même d'un point de vue politique, économie, culturelle. Je sais qu'il y a des connexions Algérie-Japon dans le monde des affaires, des connexions politiques, Mandela, le FLN, tout ça. Enfin,
les Black Panthers.
L'Algérie, elle est placée dans l'histoire et dans la culture
bien
mondiale.
Bien sûr qu'elle est placée.
Mais franchement, c'est quelque chose que, dont je me rendais archi pas compte. Genre, c'est vrai, j'en avais pas conscience du tout.
Pour en revenir sur la musique, qu'est-ce que tu écoutes?
Ouais.
Wow, putain. J'ai des goûts super éclectiques en musique. En ce moment, j'écoute le dernier album de James Blake,
ouais.
Rosalia, mais genre à balle. Mais alors, Rosalia, c'est pareil. L'influence, enfin, moi, sa musique, bon, le flamenco, bon, déjà, je kiffe depuis que je suis petite. J'avais deux robes quand j'étais petite, ma robe kabyle et ma robe de flamenco. Voilà. Et du coup, il y a un gros lien entre, évidemment, évidemment, entre l'Espagne et l'Algérie au niveau musical, la musique arabo-andalouse, tout ça. Donc oui, ça me parle grave. Rosalia, je la kiffe, putain, je l'adore. Ouais, je suis fan. Honnêtement, je crois que ça fait longtemps que j'ai pas été fan de quelqu'un comme ça.
Ah ouais, à ce point.
Je la kiffe,
On la met souvent, enfin, quand c'est on vrai. Fait des playlists sur Vraie Meuf, ça, elle revient, elle revient très souvent.
Sinon, j'écoute des trucs perchés. Je sais pas, j'écoute de la musique japonaise, j'écoute là j'écoutais quoi, j'ai réécouté tous les lives de Shadé là.
Ouais.
Tu vois, elle reste, elle s'en va jamais. J'écoute quoi, j'écoute évidemment de la musique du Maghreb, de l'Afrique du Nord, d'Iran, du Moyen-Orient. Là, on est en train de taffer, c'est pas du tout pour faire de la promo, mais juste parce que je taffais dessus hier, avec Victor Kiswell, donc un digger, un bon digger. On est en train de faire un mix pour le Quai Branly, okay. Le 15 mars. Le thème, c'est l'Orient au féminin.
Ouh.
Et du coup, en fait, c'est une performance. Il y aura une danseuse, un peintre, et nous, on est en train de faire la BO de ça. Et donc, voilà. Et donc, on taffe à fond là-dessus. Donc, on s'écoute, mais des montagnes de vinyles, et on est en train de synthétiser tout ça, de raconter une histoire. Ça m'a vachement touchée tout à l'heure quand t'as dit raconter des histoires en musique, parce que, en fait, c'est vraiment ça que j'essaye de faire, en fait.
Mais donc, en tout cas,
merci
là, voilà.
D'avoir
du coup, tu réussis, parce que si je l'ai sorti, c'est que. Ouais. C'est
raconter des histoires de femmes. Enfin, c'est vachement dur parce que c'est comme si on voulait faire une histoire de femmes, puisqu'il y aura une seule piste musicale, mais universelle en fait.
Ouais.
Donc on est là-dessus, donc voilà, on s'écoute Minou Javan par exemple, une meuf iranienne qui fait un son de malade, évidemment Warda, évidemment Feroz, Malek. Je prépare un mix aussi pour le Mélotron Radio Amadir, et qui est basé sur les vinyles qui appartenaient à Ahmed Malek, parce que sa fille me les a donnés en fait. Et du coup, je me retrouve, et il écoutait de la musique trop perchée, mais tellement perchée. Genre, il a des vinyles du monde entier, avec des trucs, mais genre un mec qui s'appelle Klaus Schulz, qui faisait, okay. qui faisait des BO de films. Et ça, c'est la BO d'un film porno, en fait. Et genre, il écoutait ça, mais c'est trop beau comme musique, tu vois. Et voilà, indépendamment de... Et donc, et que des trucs comme ça, des trucs bulgares, des chants bulgares, enfin bon.
Oui, c'était aucune limite, quoi.
Oh, mais c'est ça qui est ouf. Et donc, on va essayer de faire un mix avec ça.
Est-ce que tu aurais une recommandation ?
Ouais, j'ai... Enfin, je dis ouais, comme ça, une recommandation. En vrai, bon, moi, il y a un sujet qui m'importe grave, c'est les haragas, les migrants, tout ça. Il y a un bouquin que j'ai lu qui m'a franchement retourné la tête, qui est un bouquin d'une meuf qui s'appelle Marielle Massé et qui s'appelle Sidéré Considéré et qui aide à penser tout ça. Et bon, là, c'est le premier truc qui me vient en tête parce que voilà, j'en ai parlé là sur Radio Campus. Mais ouais, c'est fort ce bouquin.
Sidéré Considéré.
Sidéré Considéré, ouais. Très ça, bien. Ouais.
Du coup, ce sera la recommandation de Paloma qui rajoute du coup sa pierre à l'édifice des choufs. Parce qu'en fait, ouais, notre partie recommandation, elle s'appelle Chouf. Et voilà, bah merci beaucoup Paloma pour cette belle discussion. On a appris plein de choses.
Non, c'est mortel. c'est le cours d'histoire le moins chiant que j'ai eu de ma vie, le plus intéressant.
Planète Malek est disponible sur YouTube. On vous mettra tous les liens. Tiens, tu seras au festival. Tu seras à quel festival ?
Ouais.
C'est important de le dire.
Trop contente.
Parce qu'au moment où l'épisode va sortir, en fait.
Sérieux ?
Ouais, tu y seras.
J'en mets. Bah écoute, ouais. Donc il y a le festival FAME, Festival International des musiques de films. Des films musicaux, pardon. Des films musicaux qui se passent la semaine prochaine à Paris. Et je fais une séance spéciale où je présente le film avec une asso qui s'appelle l'asso Aurore. C'est samedi 16. À 16h30, et c'est gratuit, et c'est entrée libre, et il y aura toute ma famille. Donc c'est l'occasion de rencontrer ma grand-mère, ma mère.
Le rendez-vous est noté, bah... J'espère qu'on y sera, nous.
Ouais, je suis déjà en train de réfléchir.
Ah, ce serait bien.
Ce serait mortel.
Merci encore, Paloma. Merci, Sidox.
Merci à toi, Maestro.
Et merci beaucoup à vous.
La Teille est un podcast produit et réalisé par Lina Malandro, avec Ziad, Kauter, Sidox, Amel, Nesrine et Théophile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre l'équipe de La Teille sur Instagram @lateillepodcast et vous abonner sur SoundCloud. Le thé est servi. Le thé a refroidi. Merci à tous d'avoir écouté. On se retrouve le mois prochain, Inch'Allah.